L'Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire.
Depuis près d'un demi-siècle, l'Iran défie l'Occident et intrigue le monde. Théocratie, héritière d'un empire millénaire, au cœur des tensions du Moyen-Orient et aujourd'hui sous les bombes. Pour comprendre ce pays, il faut suivre le fil de ses révolutions.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'iranologue Yann Richard.
Épisode 1. 1906, la première révolution du Moyen-Orient.
Ce pays, qui depuis tant d'années semblait apesanti d'un lourd sommeil, s'éveille et s'agite chaque jour davantage. Éveil tumultueux et agitation confuse, il faut l'avouer, mais qui annonce pour un avenir peut-être prochain l'entrée en scène d'éléments nouveaux avec lesquels devront compter le gouvernement du Shah et la diplomatie de l'Europe. Le temps, le 28 juillet 1906. Bonjour Yann Richard.
Bonjour.
Merci d'être avec moi pour cette conversation. Vous êtes l'un de nos très grands spécialistes de l'Iran contemporain. On vous donne notamment une très précieuse histoire de l'Iran de 1800 à nos jours, disponible en poche chez Champ Flammarion. Un pays, l'Iran, jamais colonisé, mais dont l'histoire est indissociable de celle des grandes puissances, Russie, Royaume-Uni ou États-Unis notamment, qui sur le temps long ont influencé le destin de ce pays à l'histoire millénaire. On va ensemble cheminer dans cette longue histoire et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette émission en six dates clés. J'ai commencé avec 1906 et on commence notre histoire avec 1906 avec ce que les gens ignorent. 1906, c'est parfois considéré comme la première révolution du Moyen-Orient et elle a lieu en Iran. Que se passe-t-il à ce moment-là ?
De fait, c'est la première fois qu'un peuple du Moyen-Orient se révolte contre une puissance étrangère qui est la Russie et contre son propre gouvernement, sa propre dynastie. L'histoire de l'Iran a commencé bien avant, plusieurs millénaires avant, bien sûr. On l'appelait la Perse. Mais l'histoire de l'Iran moderne a commencé environ un siècle avant avec deux guerres catastrophiques de la dynastie Qajar contre les Russes, 1813 et 1828, qui ont abouti à l'abandon par l'Iran de ses possessions du Caucase et surtout à une loi qui va affecter les Iraniens et humilier les Iraniens pendant 100 ans, c'est les capitulations qui existaient déjà dans le monde ottoman, mais qui fait que les étrangers sur le sol iranien jouissent de privilèges juridiques incroyables. Ils peuvent être jugés dans leur consulat au moindre litige avec des Iraniens. En tout cas, il y avait beaucoup d'autres revendications, et notamment sur le plan économique, puisque dès la fin du règne de Nasser ed-Din Shah, qui a été le grand règne du XIXe siècle pendant près de 50 ans, de 1848 à 1896, à la fin, Nasser ed-Din Shah, à court de liquidités, vendait des monopoles à des sociétés européennes, et contre le monopole accordé à un Britannique pour l'exploitation du tabac en Iran, ça affectait la vie quotidienne aussi des Iraniens, mais ça affectait aussi les commerçants iraniens. Il y a eu une mobilisation de masse derrière laquelle les religions ont joué un rôle important.
Alors précisément, on va jouer avec les différents acteurs en présence, mais restons à un moment donné sur la mainmise étrangère. Est-ce que le mot de mainmise vous semble justifié ? Est-ce que on n'est pas sur une colonisation, mais sur une quasi-colonisation de l'Iran à l'aube du XXe siècle ?
Il n'y a pas eu de colonisation, mais c'est une mise sous tutelle, et notamment de tous les intérêts économiques. Avant même qu'on trouve du pétrole, il y avait déjà la rivalité entre les Russes et les Britanniques pour se faire accorder des monopoles, des concessions exorbitantes sur l'exploitation de toutes les forêts, de toutes les routes, avec des péages évidemment pour concrétiser cette exploitation. L'exploitation des postes, des douanes, tous les services publics. Et finalement, les Iraniens se sentaient chez eux, surveillés et manipulés par des étrangers.
C'est intéressant que vous disiez « chez eux » parce que dans l'histoire longue qu'on va raconter, il y a beaucoup cette tension entre les Iraniens et leur sentiment national très puissant parce qu'ils plongent dans l'histoire millénaire de ce pays.
C'est ce que les intellectuels iraniens rappellent sans cesse. C'est qu'ils sont héritiers d'une très grande civilisation qui a apporté des valeurs, notamment des valeurs humanistes, au monde entier, et qui avait un degré de raffinement inconnu dans les peuples européens qui aujourd'hui sont dominants. Et donc, ils veulent une revanche. Et il y a un peu la montée d'une revendication du peuple iranien contre une dynastie, celle des Qadjars, qui est jugée corrompue et inique et vendue aux étrangers.
Est-ce que 1906, c'est une révolution ?
Oui, c'est une vraie révolution parce que, d'abord, les gens qui ont manifesté, c'était pour protester contre des mesures vexatoires prises contre des grands commerçants.
Oui.
On retrouve ici le bazar
récemment. Oui, j'allais le dire, de fin 2025. Ouais.
Oui, mais il n'y avait pas que ça. Les Iraniens qui ont manifesté en masse, notamment dans les villes et à Téhéran en particulier, ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient revendiquer.
Oui.
Et comme il y avait une rivalité jusqu'en 1907 entre les Britanniques et les Russes, en 1907, les Britanniques et les Russes ont participé à la triple entente sous l'égide de la France, mais cette rivalité a fait que les Britanniques ont essayé d'orienter le mécontentement populaire vers des revendications structurelles de type européen, en disant « il faut une constitution, il faut une monarchie constitutionnelle », chose que, évidemment, les Qadjars ne voulaient pas entendre.
Ah, donc c'est... Alors moi, je pensais que c'était une révolution contre les Britanniques. En fait, ça s'est fait sous l'amicale et ferme pression britannique.
Au début, voilà. Et notamment, la grande manifestation spectaculaire de l'été 1906 a eu lieu dans les jardins de la légation britannique. Il y a eu 15 000 manifestants pendant plusieurs semaines. Alors, des gens qui, quelquefois, campaient sur place. Et ils discutaient politiquement, ils recevaient les journaux de l'étranger, ils les commentaient, il y avait des intellectuels qui venaient leur donner des éléments idéologiques de droit démocratique pour le peuple, et un diplomate britannique qui était là demande aux Iraniens ce qu'ils veulent, et ils disent, on ne sait pas très bien, mashrouté, enfin, un mot un peu bizarre d'origine arabe, mais qui veut dire qu'on limite le pouvoir royal, et tout d'un coup, le Britanniques leur définissent ce que va être la Constitution et ça devient leur revendication. Donc c'est très intéressant de voir cette manipulation qui n'est pas désintéressée de la part des Britanniques.
Oui.
Et peu de temps après, en août 1907, les Britanniques et les Russes se partagent des zones d'influence sur le sol iranien. Eh bien, il y a l'abandon total par les Britanniques de ce parrainage sur les revendications des démocrates iraniens.
Alors toute relation avec la situation actuelle serait fortuite d'un pays comme les États-Unis qui demande aux Iraniens de se lever et puis après qui pense à autre chose et à leurs intérêts.
Voilà. On peut commenter pendant des heures.
Il y a des réminiscences quand même.
Voilà.
J'aimerais quand même vous poser deux questions importantes. Quel est le rôle du clergé à ce moment-là ? Rappelons évidemment que l'Iran est un pays chiite depuis le XVIe siècle. Ça traduit une identité particulière dans la région. Quel est le rôle de ce clergé à ce moment-là dans la révolution ? Est-ce qu'il se tient loin des affaires politiques ou au contraire, est-ce qu'il est dans la rue avec le peuple iranien ?
Le clergé, ici, comme c'est contre des étrangers qui ne sont pas musulmans, le clergé est avec le peuple, en majorité. Mais il y a des tendances diverses et contradictoires dans le clergé. Il y a d'abord certains éléments du clergé qui ont des contacts à l'extérieur, notamment dans l'Empire ottoman, et qui sont partisans d'un certain panislamisme et qui voudraient unifier les peuples musulmans contre les puissances impérialistes d'Europe, c'est-à-dire principalement la France et la Grande-Bretagne. Et la plupart des membres du clergé, on dirait le bas clergé, sont entièrement avec le peuple, c'est-à-dire avec les commerçants du bazar. Leurs intérêts sont liés. Et il y a aussi des membres du clergé qui ne veulent pas de réformes dictées par l'étranger, ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui disent arrêtons d'imiter ce qui se fait en Europe. Donc il y a eu cette tendance aussi, notamment un grand ayatollah qui s'est solidarisé avec la monarchie Qadjar et notamment avec le nouveau shah qui est venu au pouvoir en janvier 1907 qui était dans la main des Russes et qui voulait brider tous ses désirs de réforme. Mmh. Donc il a, ce Shah, Mohammad Ali Shah, a trouvé un allié dans le clergé et il y a eu cette connivence avec le clergé conservateur. Après la victoire finale des révolutionnaires, je vous passe sur les épisodes, en 1909, ce clerc réactionnaire a été exécuté sur la place publique de Téhéran. Il a été pendu haut et court. Un ayatollah, devant une foule enthousiaste, non sans critique de la part des autres clercs de l'époque. Et l'histoire du clergé dans la politique iranienne depuis le début du XXe siècle, oui, donc depuis 1909, depuis juillet 1909, est une histoire pleine de retours, de réactions et de contre-mouvements, qui est très intéressante à étudier. Je vous passe les détails ici.
Ce qui est aussi intéressant d'étudier, c'est ce que va devenir ce mouvement révolutionnaire pendant la Première Guerre mondiale. Parce que l'Iran va être quasiment dépecé pendant la Première Guerre mondiale.
L'Iran n'est pas dépecé, il va être occupé.
Oui.
Au nord, par des armées belligérantes, l'armée russe et l'armée ottomane, des corps expéditionnaires allemands qui vont traverser l'Iran, qui vont essayer d'aller jusqu'au pétrole pour couper l'approvisionnement en pétrole de la marine britannique, pour laquelle c'était la source d'énergie principale. Et puis, même les Français ont envoyé un corps expéditionnaire qui était, on appelait ça une ambulance, c'était une ONG de l'époque, mais c'était, oui, plus qu'une ONG, parce que c'était des militaires. Ils étaient armés et ils ont tenté, à la fin de leur mission, d'armer des milices chrétiennes en Azerbaïdjan. Donc, les Européens se sont impliqués dans ce conflit. L'Iran a été occupé pratiquement entièrement, tout l'Iran, du sud jusqu'au nord, ou du nord jusqu'au sud. Et l'Iran a été au bord d'un éclatement total, puisque la province du nord de l'Iran, qu'on appelle le Gilan, était dominée par un mouvement insurrectionnel qui durait depuis avant la Première Guerre mondiale et qui s'est amplifié pendant la guerre et qui finalement s'est allié avec les Russes, avec les bolcheviks. Donc il y a eu le danger d'un éclatement total de l'Iran.
On sait, comme chez nous en France, la mémoire de la Première Guerre mondiale a traversé tout notre 20e et même un bout de 21e siècle. Est-ce qu'il y a une mémoire de cette Première Guerre mondiale chez les Iraniens? Est-ce que c'est une date importante que ce moment que vous venez de nous raconter?
Oui. Oui, et notamment par ce qui va se passer après, je crois que nous avons prévu d'en, oui, parler, parce que à partir de 1921, le cauchemar que les Iraniens entrevoyaient n'a pas lieu, et donc il y a la restauration d'une entité nationale avec un pouvoir politique fort à Téhéran. Donc, oui, le traumatisme de la Première Guerre mondiale existe. Il y a eu énormément de morts, notamment par la famine, parce que les troupes étrangères réquisitionnaient le fourrage et le blé, et donc il ne restait plus rien pour les paysans. Et en plus, il y a eu la grippe espagnole, etc. Donc, il y a,
voilà, l'Iran... Et est-ce qu'il y a aussi une forme de discrédit jeté sur la révolution de 1906, pour boucler cet épisode, ce Parlement qui a été incapable, en réalité, de gérer ce moment majeur et dramatique de l'histoire iranienne?
La faute était rejetée sur les étrangers, puisque à la fin du deuxième Parlement, c'est les Russes qui ont envahi le nord de l'Iran avec... la complicité des Britanniques, et donc il y a eu la suspension du processus parlementaire, et c'était visiblement les étrangers qui avaient suspendu les institutions démocratiques.
On sent dans vos propos à quel point l'histoire permet d'éclairer l'histoire, mais aussi le présent, avec ces mouvements populaires iraniens, ce rôle du clergé, le rôle des influences étrangères, voire des ingérences étrangères. Ça sera le cas également dans notre prochain épisode. On sera en 1921, date d'un coup d'État important dans l'histoire iranienne. Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire, est un podcast original de France Inter.